France Inter, Alexandra Ben Saïd, Jérôme Cadet, le 7-9.
Lundi 23 mai, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le cas Damien Abad au menu du premier conseil des ministres d'Elisabeth Borne ce matin, accusé de viol, ce qu'il conteste. Nous verrons qui se trouve derrière ce signalement, l'Observatoire des violences sexuelles en politique. Les autres titres, Anaïs.
Au menu du ministre de l'économie aussi, comment lutter contre l'inflation alors que les étudiants s'enfoncent dans la pauvreté. Reportage dans ce journal. En Afghanistan, les présentatrices télé sommées de se couvrir le visage. Et puis un nouvel archevêque pour Paris, Monseigneur Ulrich, installé cet après-midi.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
On a rendez-vous avec une légende. Si je vous dis simplement qu'il est 13 fois vainqueur à Roland-Garros, vous l'avez reconnu, c'est Rafael Nadal, invité exceptionnel de France Inter. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, juste avant 8h, et puis nous retrouverons le terrain politique à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'un des visages de la NUP, la nouvelle alliance de la gauche, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Vos questions pour lui dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Il conteste avec la plus grande force les accusations portées contre lui, mais combien de temps pourra-t-il soutenir la pression ? Damien Abad est devenu, depuis sa nomination vendredi comme ministre des Solidarités, un vrai caillou dans la chaussure d'Elisabeth Borne qui s'apprête à réunir son équipe pour la première fois aujourd'hui. Principale prise de guerre de la Macronie depuis la réélection du président de la République, Damien Abad, ex-patron des députés LR, est accusé de viol par deux femmes. Alors comment, Antoine Gignol, la majorité va-t-elle gérer ces révélations ?
C'est un sujet sérieux, glisse l'un des membres de ce nouveau gouvernement. Un sujet de nature à faire oublier le programme du Conseil des ministres. Un sujet que personne, ou presque, dans la majorité, ne veut pour l'instant commenter. Damien Abad sera-t-il présent ? Je ne sais pas, répond Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, interrogé en marge d'une conférence de presse. Une interrogation proportionnelle au remous qui agite depuis hier la majorité. Si la justice est saisie, nous tirerons toutes les conséquences, promet Elisabeth Borne, sans réussir à mettre fin à la polémique. La première ministre affirme qu'elle n'était pas au courant, malgré les multiples messages adressés par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles aux responsables politiques LREM et LR. Il n'aurait jamais dû être nommé au gouvernement, lance Julien Bayou. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts parle de secret de polichinelle et appelle le procureur à se saisir de l'affaire. Le nouveau ministre des Solidarités, lui, conteste la totalité des faits et précise « Je ne me laisserai pas déstabiliser, je consacrerai toute mon énergie à remplir la mission qui m'a été confiée. »
Une seule des deux accusatrices a porté plainte pour viol contre Damien Abad. Première plainte classée sans suite en 2012. Nouvelle plainte pour les mêmes faits en 2017. Là aussi classée sans suite, confirme le parquet de Paris. Classée sans suite comme 70% des plaintes pour viol, rappellent les militantes féministes qui sont à l'origine de l'affaire. Car c'est bien un signalement de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui l'a dévoilé. Mail envoyé le 16 mai à La République En Marche, puis au Parti Les Républicains et à la justice. Seul le parquet on a pris connaissance. Chez LREM, on a vu le mail qu'avant-hier. Ajra Mohamed, qu'est-ce que cet observatoire lancé fin février ?
Elles sont cinq derrière la création de cet observatoire, des élus, journalistes politiques ou collaboratrices parlementaires, cinq militantes féministes déjà à l'origine du MeToo politique l'année dernière. Un mouvement qui n'a pas vraiment changé la donne, regrette Madeleine Da Silva, adjointe au maire des Lilas en région parisienne.
Ça part d'un constat que rien n'est fait et qu'aujourd'hui, effectivement, les violences sexistes et sexuelles sont légion dans le monde politique. Donc nous, à ce moment-là, on se dit, eh bien, on va se créer un observatoire de manière à pouvoir mieux recenser, être saisi, accompagner les victimes et puis faire bouger les lignes.
Depuis son lancement, l'observatoire reçoit régulièrement des messages de victimes ou de témoins de violences. Le collectif partage également sur Twitter et Instagram le nom des candidats aux élections législatives déjà condamnés ou alors visés par une enquête mais pas encore jugés, donc présumés innocents.
L'idée, c'est pas de les afficher. C'est pas exactement ça.
Mathilde Viau, cofondatrice de l'Observatoire.
Il faut juste remettre ces violences-là parmi le reste, en fait, de ce qu'on demande à des élus au niveau de la probité. Il faut avoir le même niveau d'exigence par rapport à ça que par rapport au reste. Et donc, par conséquent, on demande à ce que les partis n'investissent pas ce genre de personnes. C'est nécessaire de leur mettre la pression parce que d'eux-mêmes, ils s'en fichent, en fait.
Et en pleine campagne électorale, cette pression peut faire la différence, si ce n'est pas auprès des responsables politiques, peut-être auprès des électeurs.
Des électeurs auxquels le premier conseil des ministres va faire les yeux doux. Première réunion peu avant 10h à Matignon, au menu école, santé, climat, mais aussi lutte contre l'inflation. Le ministre de l'économie reçoit cet après-midi les organisations patronales pour inciter les entreprises à augmenter les primes ou les salaires. L'inflation durement ressentie aussi par les étudiants. Depuis 2 ans, l'association Linky leur distribue gratuitement les invendus des supermarchés. Elle ne pensait pas prolonger son action au-delà de la pandémie. Reportage de Steven Goyer dans un centre de distribution à Paris.
Ils sont entre 70 et 80 à patienter devant l'entrée du centre de distribution de l'association Linky.
On dessert des beignets aux pommes, de la mousseline de menthe.
Des étudiants venus chercher des desserts, du pain, des plats préparés, entre 300 et 400 à chaque distribution. Hélène est venue pour la première fois il y a quelques semaines après avoir rayé de sa liste de courses des produits devenus trop chers pour elle.
J'achetais beaucoup moins de légumes, de fruits qu'il y a 2 ou 3 ans. Quoi. Mes parents ne peuvent pas m'aider parce qu'eux aussi ils ont des petits revenus.
Certains peuvent pourtant compter sur la solidarité familiale. Abdelkrim est venu chercher un colis pour sa sœur qui ne pouvait pas se déplacer à cause de son travail.
Elle touche 850 euros le mois. Elle paye sa colocation. Il lui reste 90. Donc il y a ma mère qui aide, on essaie tous de participer.
Après avoir payé leur loyer ou les factures, 3 étudiants sur 4 inscrits auprès de Linky n'ont que 50 euros par mois pour s'acheter à manger ou des vêtements. Thomas est bénévole à l'association.
Il y a eu beaucoup de remarques sur même les pâtes, les denrées les plus simples, le riz, etc. Il y en a certains qui peuvent même plus se permettre. Donc c'est vraiment une compensation qu'ils essaient de faire à chaque fois.
L'association dit d'ailleurs s'attendre à une augmentation du rythme des distributions après l'été, lors de la prochaine rentrée universitaire.
Des grêlons gros comme des balles de tennis à Châteauroux et des dégâts dans l'Indre, nous signale ce matin France Bleu Berry. 18 000 éclairs en 3 heures, 6 000 impacts au sol. Alors que des records de chaleur ont encore été battus hier, il n'a jamais fait aussi chaud par exemple à la station de ski de Superbès dans le Puy-de-Dôme pour un mois de mai. 25 degrés 7 hier, le précédent record daté de la veille. Au Canada, ce sont des orages d'une toute autre ampleur. Une ligne d'orage très rare de 1 000 km de long a balayé l'est du pays. Près d'1 million de personnes privées d'électricité et déjà 8 morts.
France Inter 7h07, contrainte et forcée, les présentatrices de télé afghanes se couvrent le visage.
Elles avaient bien tenté de résister aux talibans qui ont imposé au début du mois le port du voile intégral. Elles étaient encore visage découvert samedi avant la volte-face hier, sous la contrainte. Leurs collègues masculins ont décidé de les soutenir à leur façon à Kaboul. Sonia Ghezali.
Plusieurs hommes journalistes couvrent depuis hier leur visage d'un masque sur les chaînes de télévision nationale. Sebrat Seper est l'un d'eux, il présente le journal d'information ainsi qu'une émission politique sur Tolo News.
Comme ils ont forcé les femmes à se couvrir le visage et que nos consoeurs portaient des masques noirs, eh bien nous avons décidé de porter un masque de la même couleur. Les femmes journalistes sont dans une situation très difficile. Elles sont sous pression. L'air est suffocant ces jours-ci. C'est comme si on assistait à une cérémonie funéraire qui ne s'arrête pas. Alors nous, les hommes, nous avons décidé de soutenir les femmes.
Mais les taux se referment sur les journalistes afghanes. Dans l'ouest du pays, une consoeur qui refusait avec ses collègues de se couvrir le visage en a payé le prix.
Le directeur de la télévision est venu au bureau et nous a dit de ne plus revenir travailler. La raison de notre licenciement n'est pas claire. Il nous a simplement dit qu'aucune femme ne serait autorisée à passer à l'antenne prochainement et que même avec un masque, les femmes ne pourront pas présenter d'émission.
Les talibans ont prévenu que les journalistes qui ne se pliaient pas aux règles de l'émirat islamique seraient suspendus de leur poste. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI pour France Inter.
La visite de la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU en Chine aidera-t-elle vraiment la minorité ouïghour? Michel Bachelet arrive pour 6 jours, visite historique dans le Xinjiang. Mais les défenseurs des droits de l'homme craignent qu'elle ne soit instrumentalisée par le parti communiste au pouvoir. On en parle à 8h. En Ukraine, la ville de Severodonetsk, dans le Donbass, bombardée 24 heures sur 24 par les Russes, et qui deviendra bientôt une nouvelle Mariupol réduite à l'état de ruine.
Un homme de terrain et d'expérience pour diriger le plus important diocèse de France.
Monseigneur Laurent Ulrich, installé aujourd'hui comme archevêque évêque de Paris. L'évêque de Lille a été nommé le mois dernier par le pape pour prendre la succession de Michel Aupetit, démissionnaire contesté entre autres pour sa gestion des ressources humaines. Et c'est donc un homme dans la droite ligne de François, fibre sociale et défense des migrants, qui prend la tête de ce qui incarne aussi l'Église de France, Béatrice Duguay.
L'homme est immodeste. Lorsqu'il apprend sa nomination à Paris fin avril, il avoue sa crainte face à la difficulté de la tâche. Véronique Muliez, à ses côtés dans le diocèse de Lille, connaît ce trait de caractère.
D'allure plutôt réservée, très humble, puis malgré tout conscient des difficultés de l'Église, des erreurs qui ont été faites.
Il en est aussi très affecté, précise l'infirmière. Humain, à l'écoute, ceux qui ont travaillé avec lui dans le Nord sont unanimes. Et après les déchirements internes de l'Aéropetit à Paris, voilà qui sera bienvenu. Il est d'une grande délicatesse, ajoute Bruno Cazin, le vicaire général de Lille.
Ça dépasse la simple courtoisie, c'est vraiment un respect profond pour ses collaborateurs et pour l'ensemble des acteurs de l'Église. C'est un homme assez pudique, hein, mais en même temps quelqu'un de très clair dans sa pensée, très constant dans ses positions et ses orientations. Quelqu'un aussi de prudent, mais quand il a décidé, c'est décidé, quoi.
Qualité dont il aura besoin face au dossier qui l'attend, estime Samuel Liven. Le rédacteur en chef du Pèlerin Magazine pense bien sûr à la reconstruction de Notre-Dame et à celle de l'Église après les affaires d'abus sexuels.
Clairement, l'archevêque de Paris a un rôle clé à jouer pour donner à l'Église tout entière un nouvel élan. On a beau dire que c'est un évêque de transition, il va quand même falloir qu'il fasse plus que de la transition pendant ces 4 ou 5 années.
Et probablement qu'il brusque aussi sa nature dans le principal archevêché de France.
Monseigneur Ulrich sera installé ce soir à 18h30 avec une messe à Saint-Sulpice. C'est la seule rescapée du crash de la Yémenia qui avait fait plus de 150 morts en 2009 aux Comores. Baya Bakari témoignera à partir de 10h au procès de la compagnie. Elle avait 12 ans quand l'avion s'est abîmé dans l'océan Indien. Une nouvelle page dans l'histoire du PSG avec Kylian Mbappé, incontournable dans le dispositif sportif. L'attaquant star en conférence de presse à 15h dans l'auditorium du Parc des Princes avant le journal de 20h de TF1 pour dévoiler son rôle au cœur du projet parisien. Et puis lui aussi est une star, mais la balle est bien plus petite et jaune. Raphaël Nadal dispute aujourd'hui son premier match au tournoi de tennis de Roland-Garros, 13 fois vainqueur. Cette année, il reconnaît lui-même partir dans l'inconnu, Fabrice Abgral.
Il fêtera ses 36 ans le 3 juin prochain, mais Raphaël Nadal est toujours là, à Roland-Garros, son paradis sur terre, là où il s'est imposé à 13 reprise entre 2005 et 2020.
Je considère cet endroit comme le plus important de ma carrière, sans aucun doute, avec beaucoup de souvenirs heureux.
Pas sûr toutefois que Rafael Nadal remporte cette année un 14e titre. D'abord parce que le numéro 5 mondial s'est blessé mi-mars à Indian Wells, victime d'une fracture de fatigue à une côte. Et ensuite, de retour à la compétition à Rome, il a ressenti une violente douleur au pied gauche dont il souffre depuis 2005. Un mal chronique et incurable qui l'handicape dans ses déplacements. La douleur peut se réveiller à tout moment et disparaître le lendemain comme elle est venue. Rafael Nadal fait avec, mais pour l'instant, il ne faut pas lui parler d'un 14e titre.
Aujourd'hui, cela semble difficile. Il y a des joueurs en meilleure forme que moi, c'est certain. C'est la vérité aujourd'hui, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans les prochains jours.
Raphaël Nadal n'a perdu que 3 des 108 matchs qu'il a disputés Porte d'Auteuil. Sa dernière défaite, c'était en demi-finale l'an passé face à Novak Djokovic, un joueur que l'Espagnol pourrait retrouver cette année en quart de finale si la logique est respectée.
Et je vous rappelle, Raphaël Nadal, invité d'Alexandra Bensaïd tout à l'heure à 7h50. Et puis les deux numéros 1 mondiaux, Novak Djokovic et Iga Swiatek, entrent aussi en lice aujourd'hui, tout comme 9 autres joueurs français qui entrent en lice.
Merci à vous Anaïs Feuga pour ce journal. Le zoom dans 3 minutes, la méthanisation pour réduire notre dépendance au gaz russe.